personne.
On s'installe plutôt là-bas. Bonjour, un café, un thé, s'il vous plaît. Café ou thé, c'est le temps de la pause.
Bonjour et bienvenue sur notre série de podcasts Le temps d'une pause, thé ou café. Il met en lumière l'actualité de notre écosystème de partenaires. Découvrez une série d'entretiens avec des experts de l'efficacité organisationnelle et de la digitalisation. SIRH, relations clients, management, solutions pay, conseil, éditeur de logiciels, cloud. Nous recevons aujourd'hui Rémi Tapéro, directeur de la performance opérationnelle du groupe Intermutuel Assistance. Nous aborderons une transformation du service client qui accélère et doit planifier les effectifs et une activité de plus en plus impactée par des événements exogènes. Bonjour Rémi, c'est un plaisir de vous accueillir. Et tout d'abord, thé ou café ?
À café, je suis un grand amateur de café. J'emmène ma machine à café en vacances pour être sûr d'avoir un café de qualité tous les matins.
Parfait, on sort un café alors. Du coup, première question, sans trop de chichi, on peut dire que vous êtes un expert de la planification WFM, de la gestion de la relation client. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre métier et les tenants et les aboutissants ?
Pour faire simple, en fait, le workforce management, c'est l'adéquation des volumes d'activité, donc quelques secteurs que ce soit, avec des ressources et des compétences. Voilà, mon métier, moi, c'est de mettre en lien la couverture d'un besoin opérationnel qui se traduit par des flux d'activité, hein, qui soient des flux d'activité téléphoniques, mail, chat, réseaux sociaux et autres, hein, avec en face les ressources qui permettent de pouvoir décrocher et de pouvoir atteindre les niveaux de service et les exigences des clients en termes de réponse. Hein.
Et quelles évolutions constatez-vous aujourd'hui dans le secteur de la relation client ? Les dernières années ont été un peu prolifiques, il me semble.
Tout à fait, Cédric. En fait, il y a pas mal de choses qui ont évolué dans notre métier, dans la relation client. Tout d'abord, ce que je constate, les gros progrès qu'on a fait en termes de technologie. Donc, la digitalisation a amené à vraiment une façon différente de voir la relation client, aussi bien pour nous, professionnels, que pour les clients finaux. Et toutes les autres technologies qui tournent aussi autour de ça, l'intelligence artificielle, la robotisation, RPA, ont également apporté un vent de modernité à la fois sur nos pratiques, nos méthodologies et sur nos outils. Ce qui a également été marquant au cours des dernières années dans notre métier, c'est l'arrivée de l'omnicanalité. Il y a une dizaine d'années, on était voix et mail essentiellement. Aujourd'hui, on a une multitude de canaux à gérer en relation client. Et la dernière évolution qui est pour moi la plus importante, c'est l'évolution du comportement client. Les clients sont aujourd'hui très exigeants en termes de qualité de service, à la recherche de beaucoup d'autonomie dans les tâches qu'ils peuvent faire par eux-mêmes, hein, les tâches routinières récurrentes à faible valeur ajoutée. Ils veulent vraiment pouvoir le gérer n'importe quand ils veulent, en totale autonomie. Ils sont aussi exigeants d'un point de vue rapidité par rapport aux réponses qu'on peut leur apporter, quel que soit le canal par lequel ils nous contactent et sur lesquels les marques ont vraiment une attention toute particulière.
Et dans tout ça, qu'en est-il de WFM ? Il y a une évolution des outils qui correspond à cette réalité du centre de contact. L'activité est de plus en plus complexe, comme on l'a vu, notamment au niveau technologie et application.
Alors déjà, ce qu'il faut noter sur ce point-là, c'est que c'est un métier qui est en perpétuelle évolution. Il n'est jamais à l'arrêt. Même s'il s'appuie, je dirais, de manière ancestrale sur un certain nombre de piliers autour de la prévision, de la planification et du pilotage, qui, eux, sont effectivement immuables, en fait, la manière dont on aborde ces processus, elle est en perpétuelle mutation en fonction des époques, en fonction des entreprises, en fonction de la nature des activités également. Et c'est pour ça que c'est un métier qui est particulièrement stimulant, parce que rien n'est jamais acquis, quoi. On se remet en question en permanence, en fait. Maintenant, pour répondre plus précisément à votre question, par rapport aux dernières années, oui, là aussi, il y a eu quand même des grandes avancées. Tout d'abord, comme on a vu précédemment, sur les aspects technologiques. Aujourd'hui, les éditeurs du marché de solutions de planification ont fait des efforts assez considérables sur l'ergonomie de ces outils-là. C'est des outils qui sont rendus quand même beaucoup plus simples d'utilisation qu'ils n'étaient dans le passé. Ils sont beaucoup plus graphiques, plus intuitifs. Et du coup, leur administration, elle est beaucoup plus accessible à la fois pour les spécialistes, ceux qui utilisent les solutions, mais aussi pour les clients finaux de ces processus-là, c'est-à-dire les managers, les collaborateurs. Changement technologique important, c'est l'arrivée aussi du mode SaaS et de la possibilité d'utiliser des clients légers pour installer ce type de solution. Donc ça a grandement modifié également le volet infrastructure et le volet administration de SI, et largement simplifié. Aujourd'hui aussi, ce qu'il faut noter, c'est que les outils de planification, c'est plus des outils qui fonctionnent en standalone. Ils fonctionnent dans un écosystème complexe et intégré qui peut être connecté à du SIRH, qui peut être connecté à de la GTA, qui est connecté naturellement de manière historique à un ACD, qui est connecté aussi à de la BI pour faire de l'exploitation de données. Donc maintenant, c'est vraiment un écosystème assez complexe, hein, et assez complet, qui permet vraiment d'avoir une chaîne sans couture de l'ensemble de ces SI, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant, où on avait des briques qui étaient potentiellement isolées et difficiles interconnectable. Deuxième volet, aujourd'hui, on pilote des organisations beaucoup plus complexes que dans le passé. On a des environnements, des activités qui sont multisites, on a de la multicompétence, on a du multicanal, et en fait, toute la multiplication de ces champs-là a complètement bouleversé notre métier et les principes de planification. Si on prend par exemple l'arrivée du chat, c'est un média qui est assez intéressant parce qu'il est un peu hybride. Il est à la fois synchrone et asynchrone. Et c'est vrai que c'est quelque chose que nous n'avions pas l'habitude de gérer, nous, en planification, l'arrivée de ce type de média. Et malgré tout, on a réussi à s'adapter et à faire évoluer nos modèles pour travailler en ce sens-là. Et la troisième évolution qui me semble pour moi la plus structurante, en fait, elle est plus au niveau méthodologique. Notre métier, il a énormément évolué au cours des 10 dernières années. On est passé d'un métier où le processus de prévision était très fortement pondéré, sur lequel on mettait beaucoup d'efforts, beaucoup de finesse, beaucoup de temps et beaucoup d'analyse pour faire une prévision de qualité. Et ça avait du sens dans le passé parce que nos activités étaient finalement assez reproductibles et leur modélisation était relativement simple. Ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que ces activités-là, elles sont influencées par des comportements clients, comme on l'a dit tout à l'heure, qui sont très différents, qui sont devenus de moins en moins prévisibles. On a des actions commerciales qui sont aussi rapidement enclenchées, beaucoup moins planifiées que dans le passé. Et on a aussi bon nombre d'activités qui sont soumises à des aléas climatiques. Et on se rend compte des dernières années que les événements climatiques violents sont de plus en plus fréquents. Là-dessus, on rajoute l'épisode de la pandémie que l'on vit actuellement. Et là, on se rend compte que nos modèles prévisionnels, ils sont fortement éprouvés. Tout ça pour dire que finalement, aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on maîtrise de moins en moins nos prévisions, nos modèles prévisionnels. On a de plus en plus de facteurs exogènes qui viennent perturber ces modèles prévisionnels. Et aujourd'hui, en fait, les modèles opérationnels qui résistent le mieux à tout ça, ce sont ceux qui sont les plus ajustables à l'évolution des flux, ceux qui sont les plus agiles. Et donc, du coup, en fait, on se rend compte que notre métier sur lequel on mettait beaucoup d'efforts sur la prévision d'activité, ben aujourd'hui, on met de plus en plus d'efforts sur la capacité à rendre un modèle agile, ajustable et des leviers de pilotage en temps réel qui sont beaucoup plus marqués.
Du coup, si je fais un petit peu de provocation, on peut dire qu'aujourd'hui, dans la relation client, il est de plus en plus difficile de se baser uniquement sur une planification avec un Excel, avec un tableur, et que du coup, au vu de la complexification de l'ensemble de la chaîne, il vaut mieux utiliser un outil dédié de planification de workforce management.
Bon, les activités complexes, c'est indéniable. Aujourd'hui, on a encore des activités qui sont assez administratives sur lesquelles on peut toujours s'organiser, mais il y en a de moins en moins de ces activités-là aujourd'hui. La complexité, le fait de fonctionner de manière transverse sur plusieurs sites avec de la multicompétence, voire du multilingue, fait qu'on a drastiquement complexifié la modélisation de ces charges de travail-là. Et donc, on touche un petit peu aux limites de l'Excel et de ce type de méthodologie-là, quoi. On a besoin quand même d'éléments un peu plus structurants pour construire des modèles prévisionnels un peu plus aboutis.
Merci Rémi. Et du coup, les dernières années, les outils d'Olidis ont aussi évolué pour donner la main sur des périmètres plus précis en fonction des métiers, services, profils de chaque acteur. Du coup, entre l'outil, les process et les acteurs, il y a une sorte de symbiose à atteindre ?
Ouais, tout à fait. Et du coup, là, il y a un binôme qui se fait entre l'outillage et le process, que moi, je mets souvent au même niveau. Hein. Je ne confonds pas outils et aboutissement. C'est-à-dire qu'un outil performant sans un process performant, il lui-même n'est pas performant finalement in situ. Donc, il y a vraiment une réflexion à avoir sur comment on veut fonctionner, de quelle manière on embarque l'ensemble des parties prenantes du processus pour fonctionner dans ce schéma-là. Et ensuite, effectivement, là, l'outil va pouvoir délivrer la pleine puissance, sa pleine capacité pour optimiser un certain nombre de choses et pour industrialiser aussi un certain nombre de choses.
Une évolution forte au niveau de la relation client. Et qu'en est-il de l'impact sur les collaborateurs et des différents types de profils de collaborateurs qu'on a aujourd'hui?
On est forcément soumis effectivement à ces principes d'évolution dans l'entreprise, notamment sur les demandes de nouvelles générations qui sont en attente d'organisation du temps de travail qui sont complètement différentes que celles de leurs aînés. On a des modèles aujourd'hui qui sont assez hybrides finalement par rapport à des modèles que l'on connaissait dans le passé, qui étaient très institutionnalisés, sur lesquels tout reposait sur le principe de l'égalité. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce schéma-là. Et il faut être capable, en fait, de proposer non pas un modèle de planification pour une activité, mais plusieurs modèles de planification au sein même d'une activité. Et c'est ça qui permet, en fait, d'imbriquer les différentes contraintes, les différentes attentes, et de pouvoir, in fine, avoir un produit fini au niveau de la planification qui, à la fois, répond aux exigences opérationnelles, hein, au niveau de service, par exemple, mais qui répond aussi aux attentes des collaborateurs. Il faut savoir, dans nos métiers, une des grandes difficultés, c'est le recrutement aujourd'hui, le recrutement et la fidélisation des collaborateurs. Donc, on est fortement challengé, nous, sur nos métiers, pour être capable d'être innovant, créatif, force de proposition sur de nouveaux modèles organisationnels sur lesquels on pourrait être attractif par rapport aux collaborateurs.
Du coup, c'est exactement ce que la flexibilité, entre guillemets, a comme impact sur le collaborateur. Donc, du coup, le rôle du workforce management intervient aussi pour améliorer, pour atteindre un meilleur équilibre entre le collaborateur et l'entreprise, c'est-à-dire améliorer la qualité de vie au travail. Et ça, c'est quelque chose d'important, notamment pour la fidélisation, j'imagine.
Les outils du marché nous permettent à adresser beaucoup plus facilement ce type de situation que dans le passé. On arrive à trouver finalement des systèmes gagnant-gagnant où nous, on est capable d'aller chercher plus de flexibilité et en contrepartie, on répond mieux aux attentes des collaborateurs. Il faut vraiment qu'on arrive à trouver cet équilibre-là par rapport au modèle que l'on peut proposer. Il n'y a que comme ça que ça peut marcher parce que de toute façon, on a bien évidemment des objectifs de service, des objectifs de ROCI minimum sur certaines plages horaires sur lesquelles on pourra pas s'affranchir. Sauf que aujourd'hui, on est capable d'adresser de manière individuelle beaucoup plus finement les attentes des collaborateurs et construire au global un système de planification qui permet de répondre aux différentes exigences des uns et des autres. On a des collaborateurs qui souhaitent travailler plutôt du soir parce qu'ils sont pas du matin. On a des collaborateurs qui préfèrent avoir tel jour de repos dans la semaine quand ils travaillent le week-end. On a des collaborateurs, eux, dont l'attente, c'est d'avoir de la visibilité dans le temps au niveau de leur planning. C'est pas forcément des contraintes qui s'opposent finalement, puisque que globalement, en prenant la somme de tous ces éléments-là, on est potentiellement en mesure de reconstruire un modèle organisationnel qui répond à ces demandes. Et nous, en contrepartie, effectivement, notre objectif, c'est de pouvoir mettre en place une organisation qui est plus flexible à partir du moment où on est capable de répondre aux attentes des collaborateurs.
Et du coup, on parlait de crise sanitaire, donc d'événements exogènes. De quelle manière, en fait, cette crise a été ressentie au niveau de la relation client?
Alors ça a été un cataclysme, hein, très honnêtement. Voilà, on s'attendait pas à ça et on n'était pas prêt. Donc ça a été effectivement assez difficile. Mais moi, ce que je retiens essentiellement de cette crise, c'est que ça a été un formidable accélérateur de transformation et un catalyseur d'innovation également. Particulièrement dans notre secteur d'activité. On a réalisé des choses vraiment incroyables dans un temps record, quoi, finalement. Les entreprises de services, elles ont réussi à faire preuve d'une capacité d'adaptation incroyable. 100% des collaborateurs ont pu être mis en télétravail en moins de 2 semaines, hein, pour la plupart des entreprises. Et on parle de milliers de collaborateurs, hein, sur nos secteurs d'activité. Donc c'est un vrai défi. Imaginez-vous, avant la Covid, aller voir un patron, un chef d'entreprise dans le domaine du service et lui dire, voilà, dans 15 jours, 100% de tes collaborateurs sont en télétravail. Il vous aurait dit, c'est impossible. Et il aurait argumenté avec toutes sortes de raisons, d'objections, qu'elles soient techniques, sanitaires, sécuritaires, humaines, managériales, organisationnelles. Bref, on aurait eu toute une liste d'impossibilités à faire. Alors que là, confronté à une situation assez inédite, les entreprises, elles ont réussi à revoir l'intégralité de leurs process, mettre en place des nouveaux outils dans des temps qui sont absolument incroyables, revoir leur mode de management, de formation, de recrutement. On a recruté à distance des gens, c'est quelque chose qui n'existait pas dans nos métiers, quoi. Donc, on a vraiment vu quelque chose d'assez exceptionnel en termes de réactivité et de capacité d'adaptation. Moi, c'est ce que je retiens. Niveau humain aussi, ça a été particulièrement fort. On a eu un élan de solidarité, de cohésion. On avait l'impression d'être investi d'une vraie mission, quoi, par rapport à cette situation sanitaire. Et je trouve que les hommes et les femmes qui constituaient ces entreprises-là ont été assez héroïques. Ils ont travaillé parfois dans des conditions qui sont totalement ubuesques. Hein. Donc, vraiment, voilà, moi, c'est ce que je retiens, sur ce côté positif, notre capacité à pouvoir réagir à une situation de ce type-là. Alors que si elle avait été programmée, on n'aurait pas été capable de faire le dixième de ce qu'on a fait. Donc, ce que je retiens maintenant, c'est que je peux aller dans une réunion de travail en portant un projet. Et si en face de moi, j'ai des gens qui me proposent des objections, bah, je pourrais me rappeler qu'en 10 jours, on a été capable de mettre des milliers de collaborateurs en télétravail. Donc, ça me permet finalement de balancer un petit peu les objections et les capacités à faire ou à ne pas faire certains projets.
Donc, on peut dire qu'il y a une sorte de réaction à la crise naturelle qui s'est mise en place et qui a, en gros, dynamisé un effort de transformation, entre guillemets.
Ouais, tout à fait. Ça a été presque comme vécu comme un instinct de survie finalement par les entreprises. Et moi, je pense qu'il faut capitaliser vraiment sur ce qui a été fait. C'est-à-dire, on a fait des choses incroyables. Donc, il faut juste s'arrêter, le regarder, le valoriser et se dire, on l'a fait une fois, on le fera. On sait le faire et on sait le faire pour plein de choses et des choses beaucoup moins complexes que ce qu'on a réussi à faire finalement. Donc, il faut vraiment s'appuyer là-dessus, ne pas en faire un micro-événement, un micro-phénomène et continuer surtout à travailler dans cette dynamique-là.
Rémi, et pour conclure, du coup, quels sont les enjeux à venir pour la relation cliente demain, à votre avis ?
Je vois deux enjeux principaux pour la relation de demain. C'est déjà une accélération de l'exploitation de la data, qui va être de plus en plus au cœur des préoccupations, pas forcément pour suivre les clients, mais plutôt pour leur apporter des réponses de plus en plus précises et millimétrées. Donc, on a un certain nombre de données qu'on n'exploite pas forcément aujourd'hui dans nos organisations. Et je pense que demain, la relation client et les outils vont pouvoir nous aider finalement à exploiter, à contextualiser ces informations et à nous permettre d'être plus efficace et plus en phase et plus qualitatif sur les réponses à amener aux clients, avec une vision de plus en plus 360. C'est-à-dire qu'on peut avoir des clients qui nous appellent pour un certain sujet et on va pouvoir faire, à mon avis, la connexion avec un certain nombre d'autres éléments demain et on va pouvoir de plus en plus multiservices par rapport à ces éléments-là. Donc, vraiment une notion de guichet unique qui va être renforcée par cette notion d'exploitation de la donnée. Et le deuxième point, pour moi, ça va être vraiment la capacité de nos organisations à être agiles. Voilà, on revient sur le point effectivement prévisionnel. C'est un enjeu qui reste important, mais sur lequel on a de plus en plus d'incertitudes. Et ce qui va faire la force des organisations de demain dans le métier de la relation client, pour moi, ça va être leur capacité à trouver des modèles organisationnels agiles, flexibles, adaptables, aussi bien à la hausse qu'à la baisse des activités, mais pas forcément en prenant les collaborateurs en otage, mais vraiment en trouvant des modèles organisationnels gagnant-gagnant dans lesquels chacun y trouve son compte et chacun vraiment se sent à l'aise pour contribuer à l'effort des entreprises et aux services qu'on peut délivrer à nos clients.
Donc plus d'agilité, plus de flexibilité, mais avec un visage humain.
Exactement. Une capacité à pouvoir intégrer aussi ces contraintes-là. Pour moi, c'est pas antinomique. On peut être efficace et bienveillant dans la manière dont on aborde des processus organisationnels.
Merci beaucoup Rémi. C'était un plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour parler donc du coup de relation client et de son avenir. N'hésitez pas à revenir sur le site internet pour trouver d'autres podcasts.
Merci Cédric. À bientôt.
Je prendrai bien un thé.